Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Corentin Mansoir, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Élise Leu. Suite de notre série consacrée au pétrole, donc, après avoir parlé des marées noires hier, place à la question de la dépendance au pétrole. D'Alger à Caracas, la malédiction de l'or noir, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Le Venezuela n'a rien fait pour diversifier son industrie. On a tout misé sur le pétrole. On a préféré tout importer au lieu de produire nous-mêmes. Du coup, on n'a pas investi dans d'autres secteurs.
Selon nos informations, il y aurait 6 enfants qui meurent de malnutrition chaque semaine. Ce sont des chiffres auxquels le Venezuela n'a jamais été habitué. Cette génération qui meurt, c'est celle qui devra s'occuper du pays dans 10 ans. Avec une situation comme ça, notre pays ne peut plus avancer.
Ah ben l'économie algérienne, je regrette infiniment. Il y a une très mauvaise gestion à tous les niveaux.
Il fallait penser, enfin, il y a 20 ans de cela, au fait de diversifier l'économie algérienne. Et du fait qu'on dépende à 98% des hydrocarbures, c'est un peu problématique. Donc la gestion, elle est où?
Les compétences, on ne manque pas. L'énergie renouvelable, surtout solaire, on peut faire beaucoup de choses et on n'a que faire du pétrole pour le moment.
Le mal hollandais, la maladie hollandaise, le syndrome hollandais, une expression désignant un phénomène économique reliant l'exploitation de ressources naturelles au déclin économique. Un phénomène qu'avaient connu les Pays-Bas dans les années 60 à la suite de la découverte d'exploitation d'importants gisements de gaz qui, au lieu d'enrichir le pays, provoquèrent son ralentissement économique. Un paradoxe désormais bien connu de certains pays pétroliers qui, malgré les immenses bénéfices tirés de l'exploitation et de l'exportation de l'or noir, ne parviennent pas à utiliser cette ressource pour les mettre au service d'un développement solide et diversifié. Alors comment comprendre ce phénomène? Pourquoi d'importantes ressources pétrolières peuvent déstabiliser des économies nationales et même empêcher le développement et l'avènement de la démocratie? Est-ce qu'il existe un piège à la dépendance au pétrole et comment en sortir? Pour évoquer ces questions, deux invités. D'abord, Luis Martinez, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po, un spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. À vos côtés, Nassima Wahb, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin, docteur en sciences politiques, juriste et enseignante en économie à l'Université de Nanterre. Vous êtes l'un et l'autre auteur de deux ouvrages, Violence de la rente pétrolière, Algérie, Irak, Libye, pour ce qui est de Luis Martinez, et L'après-pétrole dans le monde arabo-musulman, pour vous, Nassima Wahb. Je vais commencer avec vous, Luis Martinez. Il y a effectivement deux pays qui aujourd'hui font particulièrement l'actualité, c'est l'Algérie et le Venezuela, deux pays qui sont dans des crises économiques, sociales, politiques profondes et qui pourtant ont de très importantes ressources pétrolières. Est-ce que c'est complètement hasard ou est-ce que effectivement il existe une forme de malédiction, pour reprendre le titre de notre émission du jour, par laquelle l'or noir serait au fond une entrave au développement économique et à la démocratie, Luis Martinez?
On ne peut pas faire le lien directement entre, disons, le pétrole au Venezuela et en Algérie et la situation politique. Je pense qu'on a des régimes politiques qui sont épuisés, qui n'ont pas su se régénérer, qui n'ont pas su se moderniser. Et c'est vrai qu'en parallèle, on a des modèles économiques qui se sont fondés exclusivement sur la redistribution directe ou indirecte des revenus issus des hydrocarbures. Et quand ces derniers vont chuter à partir de 2014, il est clair que les appareils politiques habitués à acheter la paix sociale, la paix civile, vont être, disons, en difficulté. Cela dit, on peut pas la ramener, disons, seulement à cette information conjoncturelle, tout simplement parce qu'on a des mouvements de contestation pour plus de liberté, plus de démocratie, plus de justice, plus d'égalité, qui, à mon avis, dépassent le cadre de la gestion économique. Mais ce qui est vrai, c'est que plus les revenus pétroliers diminuent, plus ça expose, les États qui en dépendent quasi exclusivement à de très grandes difficultés dans la gestion de ce qu'on pourrait appeler leur clientèle, les dépenses sociales, les mouvements politiques aussi qui se mettent à contester parce que finalement ils ont le sentiment que le navire coule un petit peu. Donc on le voit bien en Algérie. Si je prends une comparaison, en 2011, on a 1000 manifestations en Algérie, on en a quasiment aucune qui demande le départ du président. Toutes demandent des augmentations de salaire, que ce soit les infirmiers, que ce soit les policiers. Huit ans après, non, on demande le départ du président. Mmh. Il s'est passé entre-temps des choses en Algérie.
Vous avez raison de mentionner la question de la baisse des prix, parce qu'il y a un élément qui peut-être explique en tout cas en partie les difficultés propres à ces pays qui sont très dépendants à la rente pétrolière, ou d'ailleurs à n'importe quelle matière première, c'est la volatilité des prix. Quand le prix du baril chute brutalement, la crise économique est quasi instantanée. En fait, il faut réaliser que ces États qui sont extrêmement dépendants ont au fond des marges de manœuvre et des temps de réaction qui sont très courts en réalité.
Oui, d'autant plus que si je prends le cas algérien, on a bien mesuré ce problème-là en se dotant d'un fonds de réserve pour éviter la situation de 94 où l'Algérie était en situation de faillite financière et économique avec un plan d'ajustement structurel à la clé. Comme réponse là, on a mis de côté plus de 150 milliards de dollars en se disant quand le prix va s'effondrer, chaque année on puisera dans ces réserves-là pour compenser les recettes gouvernementales défaillantes en espérant que justement la période soit pas trop longue pour épuiser totalement les réserves.
On reviendra assez largement sur l'Algérie, sur l'actualité algérienne, mais aussi sur, au fond, l'histoire de ce pays et la trajectoire économique qu'il a suivie. Mais même question, Nassim Awab, un peu générale sur cette idée d'une malédiction ou pas. Quand on regarde le palmarès des pays producteurs, beaucoup ont soit un problème de développement, soit un problème de démocratie, soit carrément les deux. Le numéro 2, l'Arabie Saoudite, la Russie, le numéro 3, l'Iran, numéro 4, Irak, numéro 5, Koweït, numéro 9, Brésil, numéro 10, Mexique, Venezuela. La plupart de ces pays exploitent beaucoup de pétrole et ont des difficultés soit de développement, soit de démocratie, soit les deux. Est-ce que c'est complètement un hasard ?
Je pense pas. Moi, personnellement, ça fait vraiment mal au cœur de parler de malédiction du pétrole, alors que, à la base, c'est une bénédiction. C'est une main tombée du ciel, de laquelle, normalement, les gouvernements des pays qui détiennent cette ressource devraient la mettre au service du développement économique et aussi de la prospérité politique, à la fois.
Rares sont ceux qui arrivent à le faire. Évidemment, on va en parler, mais il y a, bon, les États-Unis, effectivement, il y a la Norvège.
Le Norvège aussi, le Canada, qui sont très rares, mais moi, personnellement, je pense que c'est un manque de volonté politique, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase où les décideurs politiques, c'est eux qui mettent en œuvre, c'est eux qui en quelque sorte tirent un petit peu l'économie du pays. Donc c'est eux qui décident de la trajectoire économique à adopter. Donc s'ils n'ont pas cette volonté de mettre en œuvre des réformes économiques adéquates avec les ressources qu'ils tirent des hydrocarbures, ça serait un échec. Mmh. Et, malheureusement, dans la plupart de ces États, ils ont non seulement profité des ressources des hydrocarbures pour s'enrichir, mais aussi pour acheter la paix sociale. Donc on demande en contrepartie des transferts sociaux qui devient de plus en plus imposant et qui pèse dans les budgets de tous ces États que vous avez cités. Donc, on essaie un petit peu d'acheter la paix sociale. C'est une contrepartie pour ne pas demander des comptes au gouvernement et aux décideurs politiques. Stratégie assez, assez courante dans pratiquement les États qui détiennent des ressources pétrolières.
Ce qu'on réalise aussi, c'est qu'au fond, quand on regarde l'indice de développement humain, et c'est ce que vous faites, Luis Martinez, dans votre ouvrage, vous comparez les indices de développement humain de pays pétroliers et de pays non pétroliers. On va regarder sur les mêmes régions, sur des pays comparables, par exemple l'Algérie, l'Irak ou la Libye, qui sont des pays pétroliers. Et puis ensuite, vous regardez le Maroc, la Tunisie et la Syrie, qui sont non pétroliers. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les indices de développement humain sur les 15, 20, 25, 30 dernières années sont pas si différents, voire même pour certains, ils sont plutôt à la faveur des pays non pétroliers. Alors est-ce à dire que finalement, les rentes pétrolières n'ont servi à rien ?
Non, en fait, si je continue la discussion, ça ne sert pas à rien. Ça a permis notamment à des États, si vous prenez la Libye, qui faisait partie des pays les plus pauvres au monde dans les années 50-60, un rattrapage considérable en termes d'indicateurs. Si vous prenez l'Algérie, qui au lendemain de l'indépendance reste une puissance agricole sans débouché parce que la France eh bien, finalement, est séparée de l'Algérie, il va y avoir progressivement un rattrapage social. En revanche, si on prend en termes de développement économique, c'est-à-dire la capacité à imposer par les revenus pétroliers des modèles économique, créateur de richesses, d'innovation, etc. Là, il n'y a aucun apport, simplement parce que les revenus pétroliers vont déboucher sur trois, disons, domaines. On va avoir des factures de dépenses militaires considérables, que ce soit en Irak, on a atteint plus de 100 milliards de dollars de dépenses militaires. En Libye, on était à 40-45 milliards. C'est colossal par rapport aux problématiques économiques de ces pays. En Algérie, sous Bouteflika, on est devenu le 8e importateur mondial d'armes, par exemple. Donc avec des budgets qui passent de 2 milliards par an à 11 milliards, par exemple. exemple. Donc ces dépenses-là, bien sûr, elles, économiquement, elles ne se voient pas, sauf si on arrive à faire en sorte que le secteur militaire devient un secteur productif industriel. Certains pays ont réussi ces dépenses militaires pour ensuite en faire des dépenses de production d'équipements. Ce n'est pas le cas dans les trois pays. Donc on a une dispersion énorme de cet argent. Et puis ensuite, on a la problématique de la corruption, qui est extrêmement forte aussi. Ce que disait tout à l'heure ma collègue, c'est qu'en fait, ce qu'on constate dans la littérature sur les pays pétroliers, c'est que quand la rente, elle arrive, en fait, entre guillemets, après le fait que l'État, la société civile, globalement, soit consolidée, on arrive à contrôler les revenus pétroliers parce qu'on a des juges, des médias, des politiques, des institutions qui contrôlent cela. Mais quand la rente, elle participe quasiment au design de l'État, à la construction du régime politique, en fait, il y a une telle ambivalence entre le régime politique et les revenus pétroliers qu'elle échappe complètement au contrôle. L'exemple de la Libye, c'est fascinant. Sous Kadhafi, personne en Libye n'était autorisé, à l'exception du ministre de l'énergie responsable de la Banque centrale et Kadhafi lui-même, à savoir exactement combien était produit, combien de revenus réellement il y avait en Libye. Mmh. Tout cela échappait complètement à la société libyenne, aux institutions libyennes. Donc on avait, entre guillemets, un revenu colossal, 40-50 milliards par an, dont on avait très peu de mal à savoir qui les contrôlait, comment ils étaient dépensés, dans quel cadre ils étaient utilisés. Et ça, c'est le drame de ces pays où les revenus pétroliers viennent alors même que l'État, les régimes politiques, les institutions, la société civile ne sont pas armés pour affronter une abondance financière sans équivalent dans leur histoire économique contemporaine.
On va parler de l'Algérie dans un instant, mais je voudrais poursuivre un tout petit peu avec vous, Luis Martinez. Parlons pas de démocratie, mettons la démocratie de côté, mais parlons de longévité des régimes. Est-ce qu'un pays pétrolier favorise la durabilité d'un régime? Je mets de côté les critères purement démocratiques. C'est un point que vous évoquez dans votre livre. Oui. Je crois qu'il y a des travaux, notamment d'un Américain qui s'appelle Benjamin Smith, qui ont été menés sur ce point-là. Que nous dit-il?
Globalement, il n'y a pas de cause à effet. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est un régime pétrolier qu'on va avoir plus de chances de durer. On a le Zimbabwe, la Corée du Nord, enfin on a toute une série de pays, le Cameroun par exemple de Biya aujourd'hui, ce sont des régimes qui voilà ont des despotes de 20, 30, 40 années parfois au pouvoir et ça fonctionne. Par contre, quand on est un régime pétrolier, la possibilité qu'on a que n'ont pas les régimes autoritaires pérennes non pétroliers, c'est que finalement on a une diplomatie à l'international beaucoup plus active qui permet d'acheter des lobbies par exemple, d'embellir l'image, de négocier des gros contrats sur des travaux, sur des achats d'armement qui font que le pays pétrolier d'une certaine manière n'est pas à la une en termes de dénonciation d'un certain nombre de droits humains, de violations politiques, etc. parce que il est aussi couvert par un ensemble de mécanismes financiers qu'anime une diplomatie pétrolière très active et qui permet, en fait, d'une certaine manière, de ne pas aborder les questions intérieures. On l'a vu à l'époque, sous Saddam Hussein, sous Kadhafi, ces 20 dernières années en Algérie, sous Bouteflika. Les problèmes sont les mêmes depuis le début, mais en fait, on n'a pas trop envie d'ouvrir ce genre de problème du point de vue international, parce qu'on a des pays, quand même, qui achètent, et qui achètent beaucoup de produits de consommation, par exemple, qui font que ça génère ce type de relation ensuite à l'international.
Nassima Wahb, regardons, on va prendre un exemple, celui de l'Algérie, on va essayer de comprendre justement comment s'articule rente pétrolière et longévité des régimes. Je vais vous poser la question de façon directe. Est-ce que le FLN algérien serait encore au pouvoir aujourd'hui s'il n'y avait pas la rente pétrolière?
Non. La réponse est claire. La réponse est très claire parce que il y a une chose à savoir, c'est pas systématique qu'on trouve la longévité dans des régimes pétroliers. On a pu voir dans d'autres pays, enfin comme j'ai cité tout à l'heure, la Norvège, le Canada ou les États-Unis. Mais le problème dans les pays rentiers, notamment arabes et africains, on trouve une certaine logique de capture de la rente. Donc tant qu'il y a des réserves pétrolières, tant qu'il y a de l'argent qu'on peut donc ramasser en quelque sorte, on va se maintenir à pouvoir, quitte à organiser des élections. On est dans un régime démocratique, mais des élections faussées. Toutefois, on essaye d'attribuer des pourcentages assez faramineux. Pour faire rappel des dernières élections en Algérie, on a eu un taux d'abstention qui était énorme. Et les jeunes participaient aux élections présidentielles, mais on avait quand même une élection de président Bouteflika qui était aux alentours de 75, voire 80%. De son venu, c'est 80%.
Et aujourd'hui, la compagnie pétrolière algérienne, la Sonatrach, elle est au cœur du régime algérien. Sans elle, il n'y a pas de système Bouteflika.
C'est pas qu'il n'y ait pas un système bouteflika, mais son attraque, elle est là depuis la nationalisation des hydrocarbures en Algérie dans les années 70, donc en 71 principalement. Donc c'est une société État dans l'État, en quelque sorte. Elle contrôle toutes les réserves pétrolières. C'est la seule société nationale qui contrôle les réserves et les revenus pétroliers. Et tous les dirigeants qui se sont succédés depuis 61 jusqu'à aujourd'hui, tous sont en lien avec le régime, les régimes successifs également de cette période-là. À chaque fois qu'un président de la République tient les reins du pouvoir, il met à l'œuvre donc des personnes qui sont liées à son régime d'une manière ou de l'autre.
Vous parliez...
Donc il y a un certain cercle vicieux en quelque sorte de personnalités autour du président, autour du gouvernement, qui ont la main très, très large sur tous les secteurs de l'économie, y compris donc, le secteur pétrolier.
Vous parliez de la nationalisation des hydrocarbures, on est en 1971, annonce par Boumediene, écoutez.
Il serait plus équitable pour les investissements dans la recherche pétrolière que les profits au moins réalisés dans notre pays soient dépensés sur place. En 1970, les Français ne voulaient pas rediscuter les prix. Nous avons donc décidé, en tant qu'État libre et souverain, de fixer les prix nous-mêmes.
Voilà, donc après l'indépendance, Boumediene décide de la nationalisation du secteur des hydrocarbures, ce qui lui permet de redistribuer la manne pétrolière et puis au passage quand même aussi d'asseoir sa légitimité qui à l'époque était quand même assez fragile. Luis Martinez, si on revient un peu sur ce moment-là de la nationalisation, essayons de comprendre la rationalité économique de ce choix. Et au fond, est-ce qu'on n'a pas là le germe des difficultés que connaît aujourd'hui l'Algérie à faire bénéficier au fond sa rente pétrolière au développement et à l'ensemble des Algériens et des Algériennes?
Je pense qu'on a une partie des problèmes, mais on a surtout le fait qu'on va associer durant cette période pétrole et identité en Algérie, si je reprends les travaux d'un certain nombre de mes collègues là-dessus, qui l'ont clairement souligné, le fait que, par exemple, Boumediene va qualifier le pétrole algérien de sang du peuple, en disant il y a eu tellement de martyrs pour obtenir l'indépendance que le pétrole est associé quasiment à une identité. Donc du coup, comment ensuite aborder rationnellement un secteur énergétique et industriel qui, a priori, devrait être un secteur parmi les autres au service du développement, mais qui va devenir le cœur, finalement, disons, de l'État algérien. Bien sûr, si on compare les périodes des années 70, on a, à tort ou à raison, on a un modèle économique de développement en Algérie. C'est-à-dire qu'on veut faire des revenus pétroliers la source de financement d'une industrie industrialisante. On veut que l'Algérie décolle sur le plan économique et donc on va utiliser les revenus pétroliers pour développer cette industrie. On a un taux de croissance de 7% à ce moment-là. On est vraiment dans le sentiment que c'est possible de rattraper le temps perdu. Je reprends les termes de Boumediene, d'acheter la modernité. Donc on croit à cela. On y croit jusqu'en 86, jusqu'à ce que finalement, ceux qui permettaient cette industrie industrialisante, à savoir le pétrole, eh bien son prix s'effondre. Et à partir de là, le coût de l'industrie algérienne est totalement déconnecté par rapport au marché mondial, notamment l'Asie du Sud-Est, etc., qui va faire que c'est l'effondrement économique de ce pays qui va se mettre en marche.
Nassim Awab, si on revient sur ce moment de la nationalisation, peut-être que ce qu'on peut dire, c'est qu'au départ, ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on nationalise les hydrocarbures, ça rapporte effectivement à l'État. La production, l'exploitation augmente. Donc, dans un premier temps, il y a une rationalité économique à tout ça. Comment est-ce qu'on va utiliser justement cette nationalisation pour essayer de développer d'autres secteurs de l'économie? Parce qu'au départ, c'est l'idée de Boumediene. Je crois qu'en Algérie, c'est aussi un peu comparable. C'est aussi l'idée qui est suivie. Comment est-ce qu'on pense faire les choses? Comment est-ce qu'on pense développer les autres secteurs de l'économie? Et qu'est-ce qui va marcher ou pas?
Oui. Alors, je rebondis sur ce qu'il a dit, Monsieur Luis Martinez. Effectivement, donc, la rente à cette période-là, c'était, une source très chère au peuple et des régions de l'époque. Mais il faudra souligner également que la décennie 60-70, c'était la période où tous les États ont accédé à l'indépendance, que ce soit au Moyen-Orient ou même donc en Afrique. Et pour marquer cette indépendance à la fois économique et politique, il a fallu nationaliser les ressources naturelles. C'était la première marque de fabrique en quelque sorte, qui appartient à ces États qui viennent de sortir de centaines d'années de colonialisme.
Oui, parce qu'il y a cette dimension identitaire nationaliste derrière. Mais comment est-ce qu'on veut l'utiliser pour développer l'économie de façon générale ?
Voilà, tout à fait. Donc, ces États, presque tous, ont suivi un modèle socialiste, donc pro-soviétique à l'époque, qui dit qu'on va utiliser l'argent de pétrole pour développer donc, l'industrie dans un premier temps, qui aura un effet d'entraînement sur d'autres secteurs de l'économie. D'ailleurs, l'agriculture a suivi peu de temps par la suite, mais cette stratégie à l'époque, elle n'a pas été bien pensée, elle n'a pas pris en considération les besoins de la société, et aussi il fallait qu'il y ait une petite ouverture.
Mais vous nous donnez un exemple peut-être pour illustrer justement le fait que c'était pas forcément bien pensé ? Un exemple peut-être de projet phare particulièrement notable et qui en réalité n'a pas eu les effets escomptés ?
Oui, tout à fait. Enfin, en Algérie, la période des années 70 qui a vu prospérer cette stratégie d'industrie industrialisante pour un État qui était fragile, qui venait de sortir de prendre son indépendance, donc d'acquérir son indépendance. Il y avait tout à refaire dans la société. Donc, y aller, donc capturer l'argent de la rente et se baser uniquement sur un secteur industriel pour satisfaire la demande nationale, alors qu'on n'avait pas le savoir-faire nécessaire, on n'avait pas aussi les moyens pour le faire. Il a fallu dans un premier temps faire appel à des étrangers, donc à des savoir-faire étrangers pour pouvoir développer déjà l'industrie nationale et par la suite développer l'industrie nationale pour pouvoir exporter par la suite. Ce qui a eu cet effet également d'exporter pour importer, de développer l'industrie nationale pour exporter par la suite. Ça n'a pas malheureusement satisfait les besoins à l'époque, ni au niveau national ni à l'international, parce qu'on n'arrivait pas quand même à exporter les produits qui ont été fabriqués sur place. D'autant plus que l'inflation a été phénoménale à l'époque. Elle a augmenté, elle est passée de quelques 10 à 14% à plus de 20%. Donc la population s'est retrouvée aussi dans une phase où elle ne pouvait pas s'acquérir même des produits locaux qui sont produits sur place. Donc c'était un échec sur le moyen terme. On ne parle même pas du long terme parce qu'avec le choc pétrolier de 1986, on a vu l'économie algérienne s'effondrer. C'est à peu près pareil dans pratiquement tous les pays de la région. Je veux juste souligner le cas des Émirats Arabes Unis qui était très intéressant d'ailleurs à l'époque, où Cheikh Zayed a suivi une stratégie tout autre. Donc on en parlera.
On va en parler, vous inquiétez pas. Mais si on reste sur cette question de la stratégie de diversification, et peut-être qu'on compare l'Algérie et la Libye, parce que je crois qu'il y avait donc au fond la même ambition. Mais après, la trajectoire va changer, parce que du côté de l'Algérie, on va rester sur une nationalisation, en tout cas sur des ressources qui appartiennent totalement à l'État, alors que du côté de la Libye, on alors je ne sais pas si c'est parce qu'on va au fond prendre conscience qu'il y a un risque à avoir cette rente pétrolière, mais il va y avoir un mouvement de libéralisation. On va ouvrir justement ce secteur au privé. Alors, je voudrais comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Et au fond, est-ce qu'on peut comparer peut-être les deux trajectoires pour voir laquelle a été la plus efficace ? Je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, parce qu'au fond, les deux, j'ai l'impression, sont quand même relativement un échec. Mais comparons les deux, Luis Martinez.
En fait, elles sont assez différentes, même si elles convergent sur les résultats. L'Algérie, comme ça a été dit, le fait en réaction à son passé, aussi à une dévalorisation de l'agriculture qui était liée à la colonisation pour les Algériens. Elle le fait en réaction à vouloir se moderniser. En Libye, on n'est pas là-dedans. En Libye, dès que Kadhafi prend le pouvoir en 69, en fait, on nationalise également, mais on le fait pour, disons, entre guillemets, animer la révolution. C'est-à-dire, le but, c'est vraiment de faire en sorte que la révolution libyenne puisse trouver les moyens de fonctionner. On a une approche socialisante également, étatique, mais on a, à la différence de l'Algérie, disons, on n'a pas ce retour contre la colonisation italienne, par exemple, ou cette revanche à prendre, etc. On est conscient qu'on a un des pays les plus pauvres au monde, que la monarchie libyenne de 51-69, bien que c'est elle qui, durant cette période, a permis la découverte du pétrole, n'est pas amené la Libye à un niveau de développement correct, et donc on a un rattrapage considérable. Les 10 premières années de Kadhafi, c'est fantastique en termes de chiffres. Sur le plan de l'urbanisation, de la santé, de l'éducation, on a des indicateurs qui font basculer la Libye d'un pays très très pauvre à un pays avec des indicateurs moyens.
Et que va provoquer la libéralisation, l'ouverture au privé ?
Alors celle-ci, en fait, en réalité, elle n'a jamais vraiment existé. Ce qu'on a eu, c'est une mise en concurrence de l'accès au bloc, disons, pétrolier en Libye, à partir notamment de la levée des sanctions du Conseil de sécurité en 2003. où les Libyens sont, la Libye est quasiment en faillite, hein, les revenus de 30 années de Kadhafi ont fait qu'il n'y a plus rien, et donc on veut, entre guillemets, ouvrir la prospection, parce que celle-ci, en fait, elle avait été essentiellement réalisée sous la monarchie. Sous Kadhafi, on a très peu prospecté, parce qu'il y a eu tellement d'accusations contre le régime qu'il y a eu très peu d'investisseurs étrangers dans la prospection. En revanche, à partir de 2003, on a un basculement de la Libye de Kadhafi vers ce qu'on pourrait appeler une normalisation, un rapprochement avec l'Europe, les États-Unis, etc. On ouvre le secteur des hydrocarbures aux compagnies internationales pour justement trouver de nouveaux gisements. Et là, en effet, on a des compagnies françaises, américaines qui reviennent en force.
Et est-ce que ça accélère le développement ?
Non, en fait, ce que ça va faire, c'est tout simplement renforcer, parce que la prospection qu'on fait à partir de 2003, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va être rentable vu la situation. En revanche, on continue tout au long de la décennie 2000 à vivre du 1,5 million de barils par jour que l'on produit. La seule différence, c'est qu'à partir de 2002, le baril de pétrole passe de $30 à $148 en 2008, ce qui veut dire que le régime libyen, sans rien faire, se retrouve avec quasiment 4 fois plus de revenus que durant la décennie 90. Donc la Libye bascule dans un niveau de richesse jamais égalé dans son histoire contemporaine, avec des sommes de plus de 160 milliards de réserves. Pour les Libyens, la Libye devient une sorte de pays extrêmement riche qui, dans les faits, ne l'est pas, parce qu'il n'y a aucun retour économique en termes de développement, c'est-à-dire des régions entières de la Libye, le sud, la région de Cyrénaïque, etc., ne voient absolument pas cette richesse financière qui, tous les jours, est étalée, disons, dans la montée du prix.
Aussi parce qu'on n'a pas été à la hauteur des investissements, des infrastructures, parce qu'au départ, il y avait des grands projets. Je pense par exemple à ce projet absolument incroyable de rivière artificielle qui, en fait, n'est pas arrivé à son terme et donc n'a pas eu les effets attendus.
Oui, alors en Libye, il y a un immense gâchis. On a quand même la rivière souterraine artificielle, donc on nous dit quand même que c'est entre 30 et 50 milliards de dollars, même si elle n'est pas arrivée à son terme. On a plus de 45 milliards de dollars d'achats d'armement. On a une centaine de milliards de dollars placés par la famille libyenne à l'étranger, chez les Britanniques, aux États-Unis, en France, dans une dizaine de comptes offshore. Donc toute une série de facteurs font qu'on a quand même une dilapidation très claire de ces ressources-là. Et les Libyens sont bien conscients que s'ils comparent leur niveau de vie par rapport, bien sûr, au Niger, ils vivent très mieux. Mais quand ils vont en vacances en Tunisie, ils se disent, c'est quand même pas normal qu'un pays comme la Tunisie, qui n'a pas du tout les revenus pétroliers et gaziers que nous avons, a un niveau de vie et une qualité de vie qui est sans rapport avec celle de la Libye de Kadhafi.
Si on regarde la Libye d'aujourd'hui, Luis Martinez, on voit bien la crise sécuritaire, sociale, économique, politique qui est absolument terrible dans laquelle se trouve le pays, avec deux gouvernements, avec une myriade de groupes armés divers et variés. On voit que la paix est très très loin. Dans quelle mesure est-ce que justement le pétrole est responsable de cette incapacité à recouvrer la paix ?
Là, il y a vraiment une histoire très particulière en Libye, c'est-à-dire que sous la monarchie, et c'était, il faut le noter, de 51 à 63, l'État libyen est un État décentralisé avec des parlements régionaux. Et c'est en 63, lorsqu'on se met à ouvrir le marché pétrolier libyen aux compagnies internationales, on a plus de 39 compagnies qui prospectent, disons, en Libye. Elles font pression sur le Premier ministre de l'époque pour mettre un terme à la décentralisation et faire en sorte que l'État se centralise. À partir de là, eh bien, la question pétrolière devient une question de pouvoir politique. Qui contrôle le pouvoir politique contrôle finalement l'État. Et dès l'instant où Kadhafi prend le pouvoir en 69, on va avoir une centralisation encore plus exacerbée des revenus pétroliers. Les revenus pétroliers, à 80%, ils proviennent des régions pétrolifères de la Cyrénaïque. Or, le pouvoir politique sous Kadhafi, il est à Tripoli, donc dans l'autre région. Eh bien, la première chose que vont faire, par exemple, les révolutionnaires de 2011, c'est demander à ce que le siège de la National Oil Company, qui était à Tripoli, revienne à Benghazi, parce que à l'origine, il avait été créé à Benghazi. Donc on va avoir très clairement une volonté de dédoubler finalement la compagnie pétrolière et de faire en sorte que le pétrole serve à toutes les régions de la Libye et non pas exclusivement, comme cela avait été le cas sous Kadhafi, finalement à une région. Alors aujourd'hui, eh bien, il sert
La zone pétrolière est tenue par le maréchal Haftar, dont on parle très souvent, qui est l'homme fort du pays, qui est à la tête d'une armée nationale libyenne. À qui sert cet argent ?
Après 5 ans de guerre, disons-le clairement, c'est le général Haftar qui est en train de récupérer le monopole, on va dire, de l'exploitation et surtout des exportations d'hydrocarbures. Bien sûr, le problème qui se pose, c'est que pour l'instant, la guerre en Libye fait que les usages pétroliers sont essentiellement utilisés dans le conflit. C'est-à-dire, il faut payer les hommes, le matériel, il faut payer finalement la guerre. Donc économiquement, il y a pas grand-chose en Libye qui se fait de ce point de vue-là. En revanche, la question va se reposer, quel que soit le vainqueur demain en Libye, de la problématique finalement de la répartition des revenus pétroliers dans un pays où, jusqu'à présent, chacun a compris que celui qui contrôlait le pouvoir politique contrôlait la rente pétrolière et donc mettait à sa merci ses ennemis en termes finalement de menaces et de chantage économique.
Nassim Awab, je rappelle, vous êtes l'auteur de L'après-pétrole dans le monde arabo-musulman, et vous dites que dans cet ouvrage, que la plupart des programmes de diversification, comme on vient de le dire, ont échoué en Algérie, en Irak, en Libye, au Soudan, en Iran, au Yémen. Mais en revanche, certains, dites-vous, sont parvenus, je vous cite, à passer d'une apologie à une réelle ère de l'après-pétrole. Les Émirats arabes unis en sont un exemple, peut-être que le Qatar et le Bahreïn aussi, dans une moindre mesure. Mais pourquoi, au fond, ces pays en particulier, comment s'y sont-ils pris pour utiliser cette rente pétrolière à des fins de développement? Quel est le secret?
Alors le secret, c'est tout simplement la plupart des États qui ont échoué leur stratégie dépendaient en grande partie des fluctuations des cours des hydrocarbures. C'est-à-dire lorsque les prix baissent, on pense à l'après-pétrole. On commence dans la foulée à mettre en œuvre des programmes, des stratégies économiques pour sortir de la dépendance à la rente pétrolière. Il dit que les prix augmentent, on laisse tomber les stratégies, on se remet à nouveau à récupérer la rente.
Ce que n'ont pas fait les Émirats arabes unis.
Voilà, donc ça date pas d'aujourd'hui, ça date des années 70, début 80, lorsque il y a eu la réunification donc des 7 Émirats sous l'égide de Cheikh Zayed. C'est lui à la fois qui a pensé dans sa stratégie politique et économique. Donc il a pris des distances avec les États-Unis, il ne voulait pas se voir imposer des stratégies qu'il ne voulait pas. Il a aussi veillé à la normalisation des relations dans toute la région, donc notamment la création de conseils de coopération du Golfe, afin de renforcer cette coopération économique et de développement économique des Émirats arabes unis. Donc il a utilisé l'argent dans un premier temps pour améliorer, pour développer les infrastructures.
Mais attendez, pourquoi ces pays-là, si on dit que le Qatar et le Bahreïn sont sur le même modèle, pourquoi ces pays-là en particulier? Est-ce que ce sont des modèles de gouvernance spécifiques? Est-ce que ce sont de petits pays au sens de superficie et qui donc étaient au fond dans une forme d'obligation de se diversifier au risque d'être engloutis par des voisins un peu trop gourmands? Je pense à l'Arabie Saoudite ou à l'Iran. Pourquoi cela?
Il y a deux facteurs. Le premier, c'est les ressources dont dispose chaque pays, parce que le Qatar également est l'un des pays qui a des grosses réserves en pétrole et surtout en gaz naturel. Le Bahreïn, c'était le premier pays, avant même les Émirats arabes unis, à avoir industrialisé son économie. D'ailleurs, il avait des complexes phénoménaux de développement et d'accroissement des réserves saoudiennes. Donc tous les complexes saoudiens, ils raffinaient leur pétrole et aussi quelques industries au Bahreïn. Le Qatar, il est dans une stratégie de concurrence vis-à-vis des Émirats arabes unis. Donc il y a eu cette montée en puissance de vouloir s'affirmer sur la scène régionale dans un premier temps. Ces Émirats arabes unis, c'est vrai qu'en tant que pays développé, on ne peut pas la comparer à d'autres pays, par exemple comme les pays européens, comme la France. Mais c'est un État qui commence à s'affirmer petit à petit et se lancer dans une stratégie de conquête, en quelque sorte, dans la région. On a pu le voir dans le Yémen, on a pu le voir aussi en Libye. Donc il commence à étendre un petit peu son influence dans tous les pays de la région. Et c'est se démarquer de l'Arabie Saoudite, qui jusque-là imposait sa stratégie à presque l'ensemble des États de la région et qui a par la suite amené à la fracture entre le Qatar et les autres monarchies du Golfe.
On va parler de l'Arabie Saoudite dans un instant, mais comment vous voyez, vous, Luis Martinez, cette exception, j'allais dire, émiratine?
Bah, disons qu'il y a plusieurs facteurs qui ont été soulevés, mais dont celui, entre autres, disons, de la part démographique, qui est quand même, qui joue beaucoup. C'est-à-dire, on a des États dont la démographie nationale est très faible par rapport à une main-d'œuvre étrangère, par exemple, d'une part. Et d'autre part, on a des réserves qui sont considérables. Si on les compare à l'Algérie ou la Libye, le Qatar ou les Émirats, c'est des réserves pour un siècle et demi.
Mais attendez, la démographie est un facteur important.
Je pense que si vous prenez un pays, si vous prenez l'Algérie, la Libye, ou si vous prenez l'Irak ou l'Iran, il y a une problématique qui est quand même celle de devoir affronter des populations de 10, 20, 30, 40, 50, 80 millions d'habitants. Donc comment on fait avec des régions assez disparates et avec des histoires complexes au niveau national ? On aurait pu développer dans la région la taxation des populations et développer des recettes fiscales fondées sur les impôts, par exemple. Ça aurait été l'alternative la plus soutenable du point de vue économique parce que ça garantit à l'État des revenus pérennes, quelle que soit, entre guillemets, disons, la nature du marché pétrolier. Deuxièmement, ça aurait donné, entre guillemets, des institutions qui auraient permis, comme dans les États-providence par la suite, à des négociations entre la société et l'État parce qu'elle revendique des droits par rapport au paiement. On a fait l'inverse. On a estimé que les revenus pouvaient provenir du pétrole et du gaz. En contrepartie, on a une taxation qui ne dépasse pas les 7 ou 8% globalement. Donc, on ne taxe pas la population, mais on lui a demandé de ne pas, du coup, avoir de revendications politiques, sociales, religieuses. En somme, vous n'êtes pas imposé, vous n'êtes pas taxé, l'État ne vous fait aucune violence fiscale à ce niveau-là, mais n'attendez rien en contrepartie de l'État. Et donc, ce contrat-là, il arrive au bout, c'est-à-dire qu'il peut marcher sur des pays où finalement on a 200, 300, 400 000 habitants. Je peux tout à fait comprendre que si on a 2 millions de barils par jour et 50 à 60 milliards de revenus par an, on peut tout à fait avoir un contrat social qui fonctionne. Mais un contrat social d'exonération totale de la fiscalité sur la population, sur des populations qui atteignent, comme l'Algérie, les 41 millions d'habitants, ça me paraît extrêmement compliqué. Et quand ensuite...
Sur l'Arabie Saoudite, ça a à peu près marché pendant des années.
Oui, sauf qu'on a là une production...
Mais dans deux régimes différents, donc...
Oui,
il y a
mais
certaines...
surtout, on a 11 millions de barils par jour. L'Algérie, c'est 1 million et demi. La Libye, c'est 1 million et demi. Quand vous avez 35 millions d'habitants, mais vous avez 11 millions de barils par jour et que vous avez 200 milliards de revenus par an... C'est disproportionné par rapport à des pays comme les autres, en fait.
Justement, en Libye, il y a eu cette conscience des dangers de la rente pétrolière. D'ailleurs, en 2008, Kadhafi a décidé de créer un fonds de rente pétrolière distribué à la population directement. Donc, c'est une redistribution directe à la population qui s'élevait à quelques 6 millions d'habitants donc, à l'époque, et même maintenant, ils ne sont pas très nombreux. Mais il leur a dit, je vous donne l'argent du pétrole, débrouillez-vous, faites des entreprises, faites des investissements, mais profitez directement de la rente pétrolière. Ils ne l'ont pas fait malheureusement parce qu'il n'a pas été... voilà, en 2011, on l'a assassiné, il n'a pas pu y aller jusqu'au bout de sa stratégie.
Regardons du côté de l'Arabie Saoudite, et toujours cette question de la diversification, l'exportation du pétrole, c'est à peu près 90% des recettes de l'État du côté de l'Arabie Saoudite. Mmh. Quelques mois après son arrivée au pouvoir, le prince héritier Mohamed Ben Salman lance un grand plan de développement destiné justement à sortir de cette dépendance, c'est Vision 2030. Écoutez.
Nous visons des revenus non issus du pétrole de l'ordre de 160 à 267 milliards de dollars d'ici 2030, a-t-il précisé, pour partie tirés de l'investissement et de la diversification de nos investissements, de nouvelles opportunités, de l'exploitation de ressources jusqu'à présent négligées. Nous atteindrons nos objectifs de revenus au terme des 5 premières années.
Voilà, donc grand plan de développement annoncé par MBS. Parmi justement les politiques qu'on va poursuivre, il y a cette privatisation partielle de Saudi Aramco qui est donc 5% effectivement, avec l'ambition de gérer d'ici quelques années un fonds de 2000 milliards de dollars d'actifs pour justement aller faire des investissements ça et là. Est-ce que ça y est, Nassim Awab, l'Arabie Saoudite a finalement pris le bon chemin de la diversification et va pouvoir s'extraire de cette dépendance au pétrole ?
Oui, il y a cette conscience depuis de très longues années. Mais Mohamed Ben Salman, lorsqu'il a pris les reins du pouvoir, il voulait se montrer comme l'homme modernateur du royaume. Donc, rapporter la modernité au pays, développer l'économie nationale et en suivant justement sa stratégie de diversification économique. Ce qu'il a annoncé en 2016, c'était très bien. C'était une stratégie bien élaborée qui, normalement, sur le long terme, devrait avoir des conséquences de belles conséquences sur l'économie saoudienne. Sauf que lorsqu'il a annoncé, le prix du baril, il est retombé à $40 le baril. Aujourd'hui, il est un peu plus. Il est environ 56-60 dollars. Donc, je revenais à ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on a des prix qui baissent, on a cette volonté d'y aller au-delà de la rente pétrolière. Lorsque les prix augmentent, bah, on retourne à nouveau dans cette stratégie de la capture de la rente. La privatisation des 5% d'Aramco qui ont été, il a prévu de l'introduire en bourse pour cette année, pour 2019, mais ça a été reporté à 2021. Donc il n'a pas vu dans sa stratégie.
C'est aussi, pour être tout à fait juste, c'est aussi pour des raisons techniques. Il y a une vraie difficulté à faire entrer en bourse la société sur les bourses, les marchés internationaux. Donc je crois qu'il y a aussi cette question-là qui est posée.
Tout à fait.
C'est pas seulement une question de volonté politique. Luis Martinez, cette question du fonds, elle est importante parce qu'on parlait tout à l'heure de la Norvège, c'est évidemment le modèle norvégien avec ce fonds très très important, je crois qu'il y a à peu près 1 000 milliards de dollars du côté de la Norvège, ouais. et ça fonctionne du côté de la Norvège. Est-ce que l'Arabie Saoudite est en train de se norvégiser, pardonnez-moi le néologisme?
Disons que ça serait une prouesse économique considérable, mais je pense que les conditions quand même qui permettent à la Norvège d'avoir développé son modèle à travers le fait que le budget des différents gouvernements n'intègrent pas les revenus gaziers, mais fonctionnent sur les revenus hors pétrole. Et ensuite, les revenus du pétrole peuvent servir d'ajustement conjoncturel à petite dose, mais surtout d'investissement dans le long terme pour le paiement des retraites, les investissements structurels, etc. Il me semble que c'est pas vraiment, pour l'instant, ce que souhaite faire l'Arabie Saoudite, qui est tout simplement de faire ce qu'ont fait des pays comme l'Indonésie et la Malaisie, qui étaient de grands pays pétroliers dans les années 60-70, qui est de dire, nous devons nous diversifier. C'est-à-dire, nous ne devons plus considérer que notre économie, notre stabilité dépendent simplement de la variation du marché du pétrole. Tout simplement parce que les pays arabes ne contrôlent pas le prix du pétrole. C'est ça le choc de 86, c'est d'avoir cru qu'entre 70 et 86, ils contrôleraient le prix du pétrole. Ils ne le contrôlent pas. Résultat, ils sont dépendants de ces variations. Et ça, je pense, c'est ce que vous disiez. Quand le prix chute ou quand le prix augmente, eh bien, on remet en question les stratégies que l'on cherche à élaborer. Donc, je pense que le fond, il est là. C'est comment arriver plutôt à avoir des modèles de type indonésien dans la région, de type malaisien, c'est-à-dire une industrie qui est une alternative à une économie pétrolière ou gazière, qui produit de la richesse, qui crée des emplois, qui garantit au gouvernement des recettes fiscales, et ça on voit bien, et qui assure à une population nombreuse un certain nombre de services et de biens.
Alors ces pays, ça fait très longtemps qu'ils sont face à ce défi. On va s'intéresser à un pays qui vient tout juste là de découvrir qu'il avait maintenant ce défi devant lui. Direction le Guyana, pays d'Amérique latine situé donc entre le Venezuela du côté de l'ouest, le Suriname à l'est et puis le Brésil au sud, une ancienne colonie britannique, un pays assez pauvre, avec une économie qui dépend essentiellement de l'agriculture et de la bauxite, assez instable politiquement par ailleurs. Le gouvernement a été forcé à la démission en décembre dernier, sauf que le destin de ce pays peut-être est en train de basculer, puisqu'on vient de découvrir il y a quelques mois de très importants gisements de pétrole au large des côtes. Bonjour Francis Perrin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, directeur de recherche à l'IRIS et un spécialiste de ces questions énergétiques. Première question, Francis Perrin, quel est le potentiel pétrolier aujourd'hui du Guyana et à quel point ces ressources récemment découvertes pourraient bouleverser l'économie du pays?
Alors, pour le Guyana, l'aventure pétrolière se joue en mer. On parle souvent du pétrole offshore dans le jargon des pétroliers. Un consortium pétrolier dirigé par ExxonMobil a fait ce jour 12 découvertes pétrolières en mer profonde au large du Guyana. Donc c'est important. Alors évidemment, comparaison n'est pas raison. Il ne s'agit pas de dire c'est un nouveau Venezuela en Amérique du Sud. Ce n'est pas le cas. On n'est pas dans la même cour. Mais pour un pays comme le Guyana, vous l'avez rappelé, le Guyana c'est pas une population très importante. Hein. On est à 700 000
personnes à peu près. Ouais.
Ça peut être évidemment extrêmement important pour l'avenir. Donc 12 découvertes pétrolières, ExxonMobil dit on pourrait peut-être en faire d'autres puisque l'exploration n'est pas terminée. Ça, c'est pour l'exploration à ce jour. Du fait de ces 12 découvertes, le Guyana va devenir demain, c'est-à-dire l'an prochain, début 2020, un pays producteur et exportateur de pétrole. La production donc débute au début de l'an prochain, donc dans moins d'un an, le compte à rebours a commencé. Et cette production va monter en puissance entre 2020 et 2025 pour atteindre 750 000, 800 000 barils par jour. Alors pour ceux qui ne sont pas évidemment familiarisés avec les barils, unité importante dans l'industrie pétrolière, 750 000 barils par jour de pétrole, ça ferait une production de 37 à 38 millions de tonnes de pétrole par an. Ça ne ferait pas du Guyana un gros producteur de pétrole. Hein. L'Arabie Saoudite produit actuellement 10 millions de barils par jour, hein, pour voir un petit peu la proportion. Mais ça peut être très important pour l'économie du Guyana dans les années qui viennent. Donc il y a un vrai potentiel pétrolier et dont on n'a pas encore complètement pris la mesure, puisque l'exploration, au moment où nous parlons, continue à se poursuivre.
Francis Perrin, il y a deux questions. Une qui est, j'allais dire, intérieure. Est-ce qu'aujourd'hui la classe politique au Guyana a pris conscience de ce potentiel et surtout des dangers qui vont avec? Ça fait une quarantaine de minutes qu'on est avec Luis Fernandez et Nassima Wahb pour évoquer justement... Luis Martinez, excusez-moi, je vous vois sourire. Effectivement, Luis Martinez et Nassima Wahb pour évoquer justement cette malédiction du pétrole. Est-ce qu'on a conscience dans la classe politique qu'il y a un véritable risque et qu'il va falloir gérer de façon consciencieuse et adaptée cette manne pétrolière? Et puis la deuxième question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on aura les moyens finalement d'instaurer un rapport de force suffisant pour que la population puisse en tirer bénéfice? Vous disiez c'est ExxonMobil qui est aujourd'hui qui devrait exploiter a priori ses ressources. Est-ce que l'État du Guyana va faire le poids dans le rapport de force? Voilà, il y a deux questions. Francis Perrin.
Alors, je commence par votre deuxième question, le rapport de force. ExxonMobil, c'est la plus grande compagnie pétrolière privée au monde. C'est un géant. Donc évidemment, quand vous êtes le Guyana face à ExxonMobil, vous vous sentez un petit peu petit en matière pétrolière. Et d'autres pays, ce serait le cas également. À côté d'ExxonMobil, il y a une autre compagnie américaine, S, qui n'est pas un grand groupe pétrolier, et il y a un géant chinois, CNOOC, compagnie d'État. Donc voilà le consortium pétrolier auquel fait face la Guyane, le Guyana, pardon. Le Guyana, aujourd'hui, n'étant pas un pays pétrolier, n'ayant pas d'histoire pétrolière, n'a pas, évidemment, les compétences ni techniques, ni géologiques, ni économiques, ni juridiques, pour affronter de tels mastodontes pétroliers, notamment ExxonMobil. Donc la question, c'est pas seulement le rapport de force aujourd'hui, c'est le rapport de force dans le temps entre un pays qui devient un nouveau pays producteur et l'industrie pétrolière internationale. Et pour être pas trop mal placé dans ce rapport de force, on peut pas l'être au début, tout dépend des compétences nationales que vous avez. Ça veut dire que l'un des défis clés pour un nouveau pays...
Mais là, elles sont nulles, les compétences nationales du Guyana. Le pétrole, c'est de l'inconnu pour lui.
La durée, c'est comment un pays se dit ma priorité ou pas, c'est de monter en compétences et de former des techniciens, des ingénieurs, des économistes pétroliers, des juristes, des commerciaux, et ça évidemment, un ingénieur pétrolier, ça ne se forme pas en un mois.
Alors là, je vois tout de suite un problème, et ensuite on va passer au volet intérieur. Mais on disait tout à l'heure, il est décisif de penser à la diversification de son économie. Et là, vous êtes en train de nous dire, pour le Guyana, le défi, c'est de monter en puissance en termes de capacité, de compétences sur le secteur pétrolier. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement à trop investir sur le secteur pétrolier et à oublier le reste? Ce qui est décisif, on l'a compris, pour les pays pétroliers.
Pour un pays comme le Guyana, comme pour tout nouveau pays producteur de pétrole, et même ceux qui ne sont pas nouveaux, ceux qui sont anciens et très anciens, la bataille se joue sur plusieurs fronts. Il n'y a pas qu'un seul front. La question des compétences nationales, former des hommes et des femmes pour pouvoir maîtriser votre destin dans cette aventure pétrolière est essentielle. Et c'est évidemment un défi de moyen et de long terme, parce que ça ne se fera pas en appuyant sur un bouton et en quelques mois. Mais si on veut dire, je veux pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe, ne pas forcément croire ce que me disent les compagnies pétrolières et tout gober ce qu'on me dit parce que j'ai pas les moyens d'apprécier si c'est juste ou si c'est faux, il faut former des compétences nationales.
Et ça ouais, donc c'est la première étape.
D'avoir la volonté politique et commencer à le faire maintenant, en sachant que les résultats seront plus tard.
Francis Perrin,
il y a d'autres défis, vous avez.
Francis Perrin, sur le volet intérieur, est-ce que la classe politique a pris conscience de l'enjeu là?
Alors, elle a pris conscience de l'enjeu. Ensuite, est-ce qu'elle sera à la hauteur de ses responsabilités historiques pour réussir ce défi de la formation que nous évoquions, pour gérer correctement la future rente pétrolière, éventuellement gazière du Guyana, pour ne pas sacrifier toute l'économie au secteur pétrolier et essayer de profiter d'une partie de ses revenus pétroliers pour diversifier l'économie, pour ne pas penser uniquement aux intérêts de la génération actuelle, mais aussi aux générations futures, pour développer un tissu économique autour de l'industrie pétrolière et gazière, ça fait beaucoup de défis. Donc, en termes de prise de conscience, oui, parce que ces pays, le Guyana étant un nouveau pays producteur, il a réfléchi à d'autres expériences. Il a à côté de lui le Venezuela, où c'est absolument la catastrophe. Ils sont allés voir du côté du Royaume-Uni ou de l'Écosse, où c'est évidemment nettement mieux. On parlait de la Norvège tout à l'heure.
Donc, vous parlez de l'Écosse, parenthèse, le Guyana, c'est une ancienne colonie britannique, je le disais, et fait partie du Commonwealth, et donc peut-être à ce titre a des liens particuliers avec notamment l'Écosse que vous évoquiez. Ça peut être un atout peut-être.
Mais le peut-être, et le Guyana a des liens particuliers avec le Royaume-Uni et avec l'Écosse. Il y a eu donc des missions qui sont allées de la part du Guyana au Royaume-Uni en Écosse pour voir un petit peu comment on fait. Aujourd'hui, on a, à travers le monde, de très mauvaises pratiques, de très bonnes pratiques. On peut faire le tri et on peut savoir correctement, intellectuellement, comment gérer correctement ces ressources pétrolières. Ensuite, derrière, il faut une volonté politique de se dire, c'est pas simplement pour ma poche, ou celle de ma famille, de mon clan ou d'une classe politique, c'est pour l'ensemble du pays, pas seulement pour la génération actuelle, mais les générations futures. Ça, c'est une question de volonté politique. On parlait de malédiction pétrolière. Il n'y a pas de malédiction pétrolière au sens divin du terme. Il y a des responsabilités humaines et politiques qui font qu'on fait des bons choix ou on fait des mauvais choix.
C'est exactement ce que nous disaient nos invités au début de l'émission. Peut-être une toute dernière réaction l'un et l'autre, Luis Martinez. Vous pointiez tout à l'heure du doigt la question démographique. Le Guyana, 700 000 habitants, donc c'est plutôt un bon candidat pour faire une bonne gestion raisonnable, raisonnée de sa rente pétrolière et d'en faire profiter tout le monde. Ça sera à l'instar de ce qu'on a vu dans les petits pays du Golfe.
Oui, enfin, encore une fois, je connais pas le sujet comme mon collègue.
Il a le bon profil, je veux dire.
Mais je pense que voilà, en effet, on peut retrouver des indicateurs et des caractéristiques qui peuvent aider à faire émerger un modèle, disons, pérenne de développement économique fondé sur peut-être une énergie pétrolière donc offshore. Reste ensuite à voir dans quel environnement, avec quelle classe politique, avec quel contrôle. Enfin, et là, je pense que ça demande une connaissance intérieure que je n'ai pas.
Nassim Awab, que vous inspire cet exemple du Guyana?
Alors, moi, je pense qu'il faudrait choisir le bon modèle économique, enfin profiter de la rente pétrolière pour développer l'économie du pays, d'autant que c'est un pays qui est pauvre, hein, donc il ne faut pas se voiler la face. Dans tous les cas, quel qu'il soit, soit le pays il adopte ce choix donc par sa propre volonté, donc il le fait par choix ou par contrainte. Donc il sera contraint de le faire tôt ou tard à cause de désastres de la rente pétrolière engendrés sur le long terme.
Merci beaucoup à nos invités. Francis Perrin qui était à l'instant par téléphone avec nous, directeur de recherche à l'IRIS. Un grand merci à vous, Luis Martinez, de nous avoir accompagnés. Je rappellerai pour les auditeurs, pour aller plus loin, Violence de la rente pétrolière, Algérie, Irak, Libye, qui était paru aux éditions Sciences Po. Un grand merci également à vous, Nassima Wahb, vous concernant un ouvrage qui est paru l'année dernière, je crois 2018, L'après-pétrole dans le monde arabo-musulman, de la dépendance aux stratégies alternatives, qui est paru chez L'Harmattan. Un grand merci à tous les deux.
Merci à vous. Merci.
Ce groupe péruvien Los Mirlos que l'on se quitte, retour demain à 11h pour une nouvelle émission consacrée au pétrole. Mais pour l'heure, 11h53, c'est Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et c'est le Brice fan de série qui va nous parler aujourd'hui, et en particulier le fan de la série britannique Black Mirror.
Oui, chaque épisode de Black Mirror met en scène l'une des conséquences envisageables sur nos existences des nouvelles technologies. En les poussant jusqu'au point où ces dystopies font peur, mais elles donnent à réfléchir. Soit qu'elles posent un miroir grossissant sur des phénomènes de société qui sont déjà à l'œuvre sous nos yeux, soit qu'elles anticipent sur des évolutions aussi effroyable que malheureusement probable. L'une de ces fictions, diffusée pour la première fois sur Channel 4 le 25 février 2013, apparaît rétrospectivement prophétique. Dans cet épisode, intitulé « The Waldo Moment », un talk show télévisuel a pour mascotte un petit ours bleu réalisé en image de synthèse, Waldo, ou plutôt l'acteur raté et mal dans sa peau qui, en studio, l'anime et lui prête sa voix, Jamie. Celui-ci fait preuve d'une agressivité et d'une vulgarité trash envers l'invité du jour sur le plateau, un ancien ministre conservateur. Il le traite de lavette. Le public adore voir ridiculiser les puissants. Les réseaux sociaux plébiscitent l'ours bleu bête et méchant. « C'est de la bombe, on va tout déchirer », jubile le producteur. Et il a l'idée de coller au basque de l'ancien ministre en campagne électorale avec un car régie. Sur l'écran géant du car, Waldo multiplie les provocations et les blagues salaces. Son message politique se réduit à une vague protestation anti-politicienne. Il apostrophe son ennemi partout. « Personne ne vous fait plus confiance, vous servez à quoi? Il faut que ça change !» Mais les badauds, eux, en raffolent. Un petit ours qui fait des paix et montre son zizi aux politiciens qu'on passait, ça plaît. Les vidéos de Waldo explosent sur les réseaux sociaux. L'ours virtuel est devenu un phénomène de société. Il est même admis à concourir aux élections dans la circonscription en question. Et alors que l'acteur qui lui prête sa voix avec ses propres frustrations, Jamie donc, renacle de plus en plus à poursuivre cette palinodie, le producteur, lui, prend conscience des potentialités énormes que lui ouvre ce succès. Waldo plaît parce qu'il ne fait pas semblant, lui. Tout le monde a un smartphone, alors les politiciens, on n'en a plus besoin. On met un pouce vers le haut ou vers le bas, et c'est ça la vraie démocratie. Imagine tout ce qu'on pourrait changer si on mettait tous les politiciens à la porte. Les commentateurs embrayent. Waldo, disent-ils, est devenu la mascotte du vote protestataire. Plus tard, la CIA envoie un émissaire au producteur. Pour le moment, votre ours est antipolitique, mais nous estimons, nous, qu'il pourrait véhiculer n'importe quel message sans présenter les inconvénients d'un humain. Vous avez créé le produit que le public attendait, celui qui mêle la politique et le divertissement. Dans la dernière séquence, on comprend que Waldo, ou ceux qui le contrôlent, a établi sa dictature totalitaire sur le monde entier. En Chine, les enfants des écoles étudient sous son image et les miliciens qui quadrillent les rues de Londres et tabassent Jamie, devenu clochard, portent ses couleurs. Comme l'écrit Giuliano da Empoli, qui commente cette histoire dans son livre « Les ingénieurs du chaos », l'antisystème est devenu le système et derrière le masque du carnaval, il a établi un régime de fer.
Et Brice, par une coïncidence étrange, cet épisode de Black Mirror a été diffusé le jour où 5 étoiles en Italie remportait son premier succès électoral, c'était en février 2013, 25% des voix pour un parti créé moins de 4 ans plus tôt.
Et oui, cette fable est plus parlante que bien des traités savants sur le populisme. Elle démontre la puissance du trash télévisuel, sa capacité à remodeler non seulement le style, mais la nature du débat politique. Le pouvoir corrosif de la dérision et son instrumentalisation par des entrepreneurs de spectacle. Donald Trump, n'oublions pas, devait sa popularité aux États-Unis au fait qu'il présentait une émission de télé-réalité, The Apprentice. On y voit aussi comment l'exaspération du public envers les politiciens professionnels offre des carrières aux démagogues. La promesse centrale de la révolution des populistes, écrit Giuliano da Empoli, c'est l'humiliation des puissants. N'oublions pas non plus que l'un des slogans des Brexiteurs était « Faites-leur passer l'envie de sourire, votez Leave ». Et surtout, The Waldo Moment illustre la tentation très présente aujourd'hui de la désintermédiation politique. Puisqu'on peut se passer d'agence immobilière pour vendre son appartement, de banquier pour tenir ses comptes, de commerçant pour acheter tout ce qu'on désire, pourquoi ne pas remplacer le Parlement et le gouvernement par une application ? Par ailleurs, lorsque nous désirons quelque chose, nous ne supportons plus d'attendre. Or, en démocratie, il se passe des années entre l'idée d'une réforme et la publication des décrets d'application de la loi une fois celle-ci votée. Et bien, c'est en gros le projet du mouvement 5 étoiles. Et le bouffon Beppe Grillo est l'exact équivalent de l'ours bleu Waldo. Comme Waldo, il se propulse en provoquant. Comme Waldo, il sort délibérément du discours politique rationnel et convenu en misant sur la bouffonnerie. Et surtout, comme Waldo, il n'est qu'une créature entre les mains d'une bande de manipulateurs.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, Les ingénieurs du chaos, donc cet ouvrage de Giuliano d'Ampoli qui vous a beaucoup plu. Quelle édition, je me souviens plus.
Jean-Claude Lattès.
Jean-Claude Lattès, merci beaucoup cher Brice, on vous retrouve demain dans un très court instant. C'est Olivia Gesbert et La Grande Table.